Bonjour Marie-Marthe. Bonjour Jean-Gilbert. Bonjour Rosanie. Bonjour Gérard. Bonjour Denise. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Rachel. Bonjour aux sœurs qui sont avec toi actuellement. Sœur Chantal, la sœur auxiliaire, la sœur Mona. Vous nous manquez tous et toutes. Bonjour Lucie, que Dieu vous bénisse. Bonjour Thérèse. Merci Gérard pour les bons mots, c'est très gentil, très apprécié. Bonjour à mon père et à ma mère. Alors encore une journée frisquette, un peu moins froid qu'hier, mais tout de même j'ai pris une petite marche en accompagnant Daphné au travail ce matin vers 6h et puis ce n'était pas chaud chaud. Mais il fait quand même moins froid qu'hier. Et demain, ça va être très agréable. Petite neige demain, je crois même. Mais encore une fois, pas de grosses précipitations, malheureusement pour moi et pour le frère Gérard. On attend encore notre premier 20 cm de neige. Mais dans les deux prochaines semaines, de ce que je regardais ce matin, sur Météo Média, il n'y a aucune grosse précipitation dans les deux prochaines semaines. Donc, vous m'envoyez très navré. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Rosie, nos pensées, mes pensées, mes prières surtout, vont vers vous et vers votre époux André. On priera encore une fois pour vous ce matin. On l'a mentionné hier, mais là, de ce que maman me dit, les choses se compliquent. Donc, on va prier tout à l'heure pour André, l'époux de notre sœur Rosie, qui est à l'hôpital et puis peut-être dans des moments critiques. Donc, que le Seigneur soutienne notre bien-aimée sœur Rosie, qu'on a connue à travers les bénédictions matinales et qui est fidèle jour après jour, assemblée après assemblée. Donc, on la salue. Elle nous regarde depuis l'Alsace, dans le nord-est de la France. Bonjour Daniel, que Dieu te bénisse. Hermana Susana, que Dios la bendiga a usted y a su esposo también. Bonjour Jude, bonjour Caridad, soyez bénis. Alors aujourd'hui, il y a deux rendez-vous, donc ce matin bien entendu, et ce soir à 19h, étude biblique qui sera diffusée depuis l'église, bien entendu en huis clos, mais la personne qui enseignera ce soir sera depuis l'église. Bonjour à la sœur Nancy. Bonjour à Maggie. Merci Daniel. Bonjour à Myriam et Donald depuis Ottawa. Sœur Daphné de retour au travail, elle écoutait ce matin les enseignements depuis le début de la semaine. Donc, je ne sais pas si elle nous regarde en direct ce matin. Ça m'étonnerait depuis le travail. Mais elle recevra, Rosie, vos salutations assurément. Encore une petite minute et on va commencer. Donc, il y a Prime Time Training, mais là, je ne sais pas c'est qui. Donc, je vois le nom de l'entreprise, je suppose, mais je ne sais pas qui est la personne derrière, mais on vous salue. Bienvenue parmi nous. Et comme l'écran est petit sur mon iPhone, donc je ne peux pas voir les visages pour voir si je me rappelle ou si ça me sonne une cloche. Lucie, il faut dire bonjour à Lynn de notre part aussi. Alors on va prier, puis on va commencer. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, pour cette autre occasion que nous avons de plonger nos regards dans ta sublime parole, parole qui est source de vie, d'instruction et de bénédiction pour nous tous. On te demande encore une fois ce matin de nous parler, de nous instruire, de nous faire entendre ta voix et comprendre raison. Donc merci Seigneur pour tout ce que tu fais, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. On prie de façon spécifique ce matin pour notre sœur Rosie et particulièrement pour son époux André. Tu vois, Seigneur, les instants capitaux dans lesquels il se trouve actuellement. Tu sais, Seigneur, quel est le nombre de jours que tu as accordé à André. On te rend grâce, Seigneur, qu'à travers ces derniers temps, il a pu faire la paix avec toi et se tourner vers toi. On te demande, Seigneur, si le moment était arrivé, de le prendre par la main, Seigneur, de lui apporter la paix qui est nécessaire, particulièrement dans ces moments d'au revoir, et que tu accordes aussi, Seigneur, paix à notre sœur Rosie, de même, Seigneur, qu'à toute la famille, proche ou éloignée. Mais en toute chose, Seigneur, nous ne voulons en aucun cas précéder ton temps. Non, Seigneur, si tu veux te glorifier d'une autre manière, si tu veux accorder à André encore l'occasion de parfaire sa communion avec toi de ce côté-ci de l'éternité, nous te demandons, Seigneur, que ta volonté, pleine volonté, parfaite volonté, s'accomplisse. Et si le moment, Seigneur, était de venir le prendre et de l'amener dans ta présence, merci, Seigneur, parce que lorsque nous traversons effectivement le Jourdain, comme dit le chant, tu nous prends par la main. Alors merci Seigneur d'apporter grâce, soutien à André, d'apporter grâce Seigneur, soutien, consolation à Rosie et à ses filles, à toute la famille. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à cette autre bénédiction matinale. Cette semaine, on approfondit l'enseignement qui a été prodigué par le pasteur André Bernard ce dimanche matin, qui avait pour titre « Dieu a-t-il toute mon attention ?» Et combien c'est important en début d'année de se poser cette question et à juste titre de modifier peut-être nos habitudes, nos façons de faire, d'ajuster notre procédure pour s'assurer que Dieu a effectivement toute notre attention. Le texte qui sert de réflexion se trouve dans Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42, principalement les versets 41 et 42. C'est cette rencontre de Jésus à Béthanie, dans la maison de Marthe, Marie et Lazare, leur frère. Et alors que Jésus se présente dans la maison de Marthe, elle vient se plaindre à Jésus du fait que sa sœur Marie ne l'assiste pas dans l'entretien de la maison, dans la préparation de tout ce qui est à faire pour les convives qui viennent d'arriver. Alors Jésus va lui dire qu'il y a une seule chose qui importe, une seule chose qui est nécessaire, et que sa sœur Marie, en l'occasion, l'a effectivement choisi. Alors je lis pour vous du verset 38 au verset 42, et puis je vais relire de nouveau le verset 41 et 42, toujours dans Luc au chapitre 10. La parole de Dieu nous dit: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors j'aurais lu le verset 41 et 42. Le Seigneur répondit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Depuis le début de la semaine, on a vu ceux qui venaient tout d'abord lundi mettre un frein ou mettre un blocage ou voler notre attention ou l'attention que nous devrions porter à Dieu. On a vu qu'effectivement se tracasser, puisque c'était la première parole que Jésus va dire à Marthe, que ça tracasser vient bousiller notre quiétude et notre paix, que ça vient prendre notre attention et notre temps. Et on a vu aussi que dans le terme s'inquiéter, se tracasser, merimnao, qu'on parlait aussi d'un tracas quant à notre propre intérêt personnel. Je sais que c'est redondant, mais c'est pour que vous saisissiez bien. Notre propre intérêt personnel. Alors parfois, on place nos intérêts et notre devenir à l'avant de notre relation avec Dieu. Et ça vient voler notre paix, notre quiétude. Nos intérêts, notre devenir, lorsque elles occupent la place qui devrait revenir à Dieu, vient bien sûr occuper notre attention, alors que nous devrions être en prière, alors que nous devrions être dans la recherche de la face de Dieu. L'inquiétude qu'on peut avoir pour notre propre personne vient prendre l'attention, et très régulièrement on se met à prier et on voit que notre esprit vient à vagabonder d'un endroit à l'autre et qu'il vient à être distrait. Et enfin, notre intérêt ou notre attention portée sur notre propre intérêt, sur notre propre devenir, va prendre notre temps. Les choses qui comptent pour nous vont exiger de notre part du travail, et le travail exige nécessairement du temps. Alors non seulement nos efforts vont être portés non plus vers Dieu, mais vers nous-mêmes, et notre temps ne sera plus dépensé pour les choses de Dieu, mais pour notre propre intérêt et devenir. Et je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas penser à préparer sa retraite. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas penser à travailler pour subvenir à nos besoins. La Bible dit que suite au péché, que l'homme allait se nourrir à la force de son travail, à la sueur de son front. Donc assurément, le travail fait partie de la vie humaine. La problématique, c'est lorsque notre désir, notre intérêt, notre quête d'un avenir agréable vient à prendre position entre nous et Dieu, ou vient à voler à Dieu la place qui lui serait assignée, la première place qui lui reviendrait. Hier, on a vu, lorsque Jésus va dire à Marthe « Tu t'agites pour beaucoup de choses », on a vu une espèce de crescendo, une espèce de croissance dans l'inquiétude. Tout d'abord, on est agité, donc on perd notre capacité à gérer le stress, on sort de notre calme naturel, puis on devient troublé, donc notre paix naturelle, notre sentiment intérieur de paix vient à s'estomper. Puis on est distrait, donc on manque de focus, on perd d'attention, Et la question de cette semaine, c'est Dieu a-t-il toute mon attention? Alors assurément, lorsqu'on cède à l'inquiétude, Dieu n'a plus cette attention et nos réflexions ne sont plus portées vers Dieu, mais essentiellement vers la problématique qui est présente devant nous. Si on ne fait pas attention, après avoir été distrait, on va même être dérouté, donc sortir de notre route, un peu comme le terme péché, on l'avait vu hier, armatia, veut dire rater la cible. L'inquiétude va aussi nous amener à rater la cible, à perdre de focus ou à perdre l'emphase, à perdre la direction qui devrait être nôtre. Après avoir été dérouté, on pourrait aussi être égaré, donc c'est être sorti de nos repères. Il y avait des choses qui jalonnaient notre voie, il y avait des choses qui balisaient notre conduite chrétienne. Lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu, lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, les valeurs inhérentes à la parole de Dieu, les valeurs inhérentes au royaume de Dieu deviennent banales, viennent à s'estomper dans notre pensée, dans notre réflexion, et on vient à adopter d'autres règles. On vient à privilégier d'autres valeurs qui sont assurément distinctes et parfois même contraires aux valeurs de Dieu. Donc on perd nos repères et dans le plus grave des cas, on en vient à être littéralement perdu, donc sorti de notre capacité à trouver notre chemin par la grâce de Dieu. Et on a conclu comme cela hier, lorsque nous sommes perdus, peu importe si on vient de dévier ou si on a dévié depuis longtemps et on a cheminé très loin du Seigneur et qu'on ne voit plus comment retrouver notre chemin. La Bible nous dit que Jésus est la lumière, que Jésus est le chemin, que Jésus est la vie. Et assurément, si on se tourne vers lui, il sait nous ramener sur le droit chemin. Il sait nous conduire sur le chemin de la justice. Il sait nous réchapper et nous ramener pour nous faire atteindre l'objectif qui était sien. Et aujourd'hui, on voit donc la deuxième partie de cette histoire qui concerne cette fois-ci Marie, la sœur de Marthe, où Jésus va dire que Marie a choisi la seule chose qui est nécessaire et que cette chose-là ne lui sera point ôtée. Alors, une seule chose est nécessaire. Pour être en règle tant avec les Marthe qu'avec les Marie, lundi, on a expliqué que Marthe n'était pas nécessairement le prénom le plus beau qu'il y avait dans la parole de Dieu. Marthe va vouloir dire rebelle. En contrepartie, Marie n'est pas nécessairement le plus beau des prénoms non plus. Très souvent, la tradition, principalement catholique, a fait en sorte que... Je m'excuse, une petite gorgée. A fait en sorte, la tradition catholique, qu'on appelle nombre de nos jeunes filles Marie, parce que ça fait référence à la maman de Jésus, une femme d'exception qui va avoir la grâce de porter le Messie en son sein. Mais Marie en soi n'est pas nécessairement un joli prénom non plus. Pour ceux qui se demandent c'est quoi Marie en grec, c'est le terme Maria et qui veut dire amère. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament lorsqu'on parle de Myriam, c'est le même terme. Myriam, Marianne, Marie, Maria, c'est toujours le même terme qui veut dire amer, et on retrouve ce mot-là ou ce vocable tant en grec Maria que en hébreu Mara, qui est cette source d'eau amère dans laquelle on va lancer un objet pour qu'elle devienne douce à l'époque du pèlerinage du peuple juif depuis l'Égypte jusque dans la terre promise. Alors, Maria, Marie, Marianne, Myriam veulent tous dire amère et on s'arrête là tout simplement parce qu'on voulait faire la juste part des choses en ayant défini par le passé ce que voulait dire Marthe et aujourd'hui on fait avec Maria. Donc Jésus va dire une seule chose est nécessaire. Ces deux mots, une seule chose, c'est le terme Heis. H-E-I-S, pour ceux qui prennent les notes, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à le faire. Heis, H-E-I-S, qui veut dire une seule chose, est nécessaire, creia, donc C-H-R-E-I-A. Heis, pour une seule chose, et creia, C-H-R-E-I-A, pour nécessaire. Lorsqu'on parle d'une seule chose, on va parler tout d'abord du fait qu'elle est unique. Alors, si elle est unique, elle est donc distincte de toutes les autres. Lorsque Marie va choisir de s'arrêter au pied de Jésus, de ne pas participer aux activités de la maison, mais de se concentrer et de consacrer son attention sur Jésus, Jésus va dire que ce qu'elle fait est la seule chose qui est nécessaire, est une chose importante et unique. Ça veut donc dire que le temps que je vais passer avec le Seigneur est un temps unique, qui ne se compare avec aucun autre temps que je pourrais passer avec quelqu'un d'autre, qui ne se compare avec aucune autre fréquentation, avec aucune autre communion que je pourrais entretenir avec quelque être humain que ce soit. Il y a quelque temps, je relisais certaines publications Facebook que je mentionnais. Et il y a quelques années, j'ai lancé un sondage comme ça auprès de tous ceux qui me suivent sur Facebook en demandant qui serait la personne la plus impressionnante que vous aimeriez rencontrer, hormis Jésus. Et je disais qu'une des personnes qui, dans mon cas, m'impressionnait était le chef d'orchestre Kent Naganou, le chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Montréal, celui qui était en fait jusqu'à dernièrement le chef d'orchestre ici à Montréal. Et je disais, cette personne m'impressionne par sa prestance, par son savoir, par sa culture, par la classe qui émane de lui. Vous avez vu certainement dernièrement aussi un de mes posts où je parlais de l'acteur Sidney Poitier qui est décédé il y a quelques jours. Et je disais, pour moi, il personnifiait la classe, la grande classe. Et c'est quelqu'un qu'effectivement, j'aurais aimé rencontrer. On parlait, Daphné et moi, il y a quelques jours aussi, des différents présidents américains. Et je lui disais, ben, ceux-là, j'aurais aimé les rencontrer. Mais ces autres-là, je ne voudrais même pas prendre une tasse de café ni un verre d'eau avec eux. Par contre, il y en a d'autres avec qui je pourrais m'asseoir. Et même si on n'a pas les mêmes pensées, les mêmes idéologies, les mêmes façons de voir l'humanité, je suis convaincu que j'aurai un bon temps à discuter. Nonobstant ces grandes personnes, nonobstant la richesse de la communion qu'on pourrait avoir avec ces personnes, aucune des communions entretenues ici-bas sur Terre n'a son parallèle avec celle que nous pouvons entretenir avec Dieu. Donc notre attention, lorsqu'elle est portée vers Dieu, elle est portée vers la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité et la personne la plus importante de tout l'univers. Notre Dieu est incomparable et par conséquent, l'attention que je lui porte est effectivement une chose incomparable, distincte à toutes les autres. Même s'il y a des choses qui sont importantes dans ce monde, il n'y en a aucune qui soit plus importante que la communion que j'entretiens avec Dieu. Et par conséquent, aucune attention que je porterai à quoi que ce soit n'est aussi importante, unique et distincte que celle que je devrais porter à notre Dieu. De surcroît à cela, lorsqu'on parle d'une seule chose, au-delà de distincte, donc d'entretenir une relation toute particulière avec Dieu, il y a aussi, dans le sens du terme « heis », il y a aussi le terme « premier ». Le terme « un » veut dire « un avant le 2 »,« un avant le 3 », »,« un avant le 4 », c'est le premier des chiffres. En grec, il va y avoir cette notion de prédominance pour le 1. Alors, dans notre cas, lorsqu'on parle de l'attention qu'on voue à Dieu, ça devrait être une attention qui vient avant toutes les autres. Non seulement est-elle distincte de toutes les autres, donc je porte une attention toute particulière à Dieu, mais de surcroît à cela, c'est ma première attention. Certains d'entre nous sommes mariés, certains ont des enfants, certains ont des responsabilités avec, que ce soit l'Église, avec des cercles familiaux, des cercles d'amis, certains ont des responsabilités civiles au niveau de la population, sachant que au-delà de toutes les relations qu'on entretient, celles que nous entretenons avec Dieu priment sur toutes les autres. Et voilà pourquoi je ne suis pas nécessairement en faveur, mais ni être en désaccord avec la pensée de mettre Dieu au début de notre journée. Si effectivement le Seigneur est la première attention de notre vie, si effectivement Dieu se doit d'être traité de façon distincte au traitement qu'on voue à toutes les autres personnes. Mais par conséquent, le début de la journée, c'est pas une mauvaise chose de le consacrer à Dieu. Comme j'expliquais il y a quelques jours, il faut aussi consacrer du temps de qualité au Seigneur. Mais du temps de qualité au Seigneur ne veut pas dire que si moi mon temps de qualité c'est en fin de journée, que je ne pense pas à Dieu durant tout le restant de la journée, que j'attends la fin de la journée pour m'adresser à Dieu. Je pense que de confier sa journée au Seigneur au démarrage même de notre journée est une chose importante. Et j'expliquais que très souvent je me réveille avant que le réveil ne sonne et par conséquent je prends le temps de confier ma journée entre les mains du Seigneur, lui demandant de me guider, lui demandant de m'assister durant cette journée. Puis le réveil sonne et c'est à ce moment-là que je vais faire les choses que je dois faire et particulièrement quand le réveil sonne, très souvent je vais voir ce qui s'est passé tout autour de la terre et puis je vais voir s'il y a des gens qui m'ont écrit ou qui m'ont appelé ou qui ont essayé de rentrer en contact avec moi. Mais le premier contact que je vais avoir va être avec Dieu. Puisque réveillé avant le réveil, je prends un petit moment pour prier et remettre ma journée entre les mains du Seigneur. Donc notre attention devrait être premièrement à Dieu. De surcroît à cela, lorsqu'on parle de Heis, on parle non seulement d'une relation qui est distincte, on parle non seulement d'une relation qui prime sur toutes les autres, mais une relation qui est aussi plus importante que toutes les autres. Ceux qui sont mariés savent combien il est important de prendre soin de notre conjoint ou de notre conjointe. Ceux qui ont des enfants savent la responsabilité inhérente au fait d'être papa ou maman par rapport à nos enfants. Mais de surcroît à tout cela, notre relation la plus importante reste celle que nous avons avec Dieu. En tant que croyant, je ne peux pas donner un bon exemple à mes enfants si ma relation avec Dieu n'est pas bonne. Si les enfants voient que ma relation avec Dieu ne pèse pas lourd dans ma balance, si les enfants voient que ma relation avec Dieu peut aller vaille que vaille, mais ces enfants vont reproduire l'exemple que je leur donne. On entend souvent des jeunes qui vont dire que la relation qu'ils ont eue avec le Seigneur, ou la relation que leurs parents plutôt, ont eu avec le Seigneur à influencer leur propre relation avec Dieu. Je pense que c'était le pasteur Sergio qui dernièrement disait qu'à l'époque qu'il était responsable jeunesse, il parlait avec certains jeunes qui avaient quitté le Seigneur et qu'il disait « mais c'est essentiellement par l'exemple que mes parents donnaient, parce qu'à la maison ils étaient quelque chose et à l'église ils étaient quelque chose d'autre. » À l'Église, Dieu était la primauté de toutes leurs responsabilités, de tous leurs intérêts et de tout leur engagement. Mais à la maison, ils avaient une autre attitude. Alors les enfants, voyant la dichotomie dans la relation de leurs parents avec Dieu, ne se sont pas, eux, consacrés au Seigneur parce qu'ils disaient « c'était pas important pour mes parents, ça ne l'est pas plus ou ça ne devrait pas l'être davantage pour moi. » En contrepartie, on va avoir des exemples de jeunes gens qui vont avoir vu un attachement tout particulier de leurs parents envers Dieu et qui, eux, étant instruits par cet exemple, étant nourris par cet exemple parental, vont par la suite reproduire ce même exemple. Plusieurs de mes collègues pasteurs vont, pourraient vous dire qu'effectivement, ils sont entrés eux-mêmes dans le ministère parce qu'ils ont vu l'attachement de papa envers le ministère, l'attachement de maman envers l'œuvre de Dieu, et qu'ils n'avaient donc par conséquent qu'une seule aspiration, de faire de même. Donc notre relation avec Dieu, notre temps avec Dieu devrait être le moment le plus important de toute notre journée. Donc une seule chose qui est nécessaire, donc une chose qui est distincte, une chose qui est première avant toutes les autres au niveau chronologique, et une chose qui est plus importante que toutes les autres, notre relation avec Dieu. Passons maintenant au deuxième terme, le terme creia. Creia, C-H-R-E-I-A, qui veut dire nécessaire. Je vais vous sortir quatre synonymes en français pour ce terme creia, et vous allez y saisir, je l'espère du moins, toute la portée de ce terme-là. Bien sûr, nécessaire nous parle d'une nécessité. Ça veut dire qu'on en a besoin. Lorsque Jésus va parler de Marthe, il va dire que Marthe est en train de dissiper son énergie, de dissiper son attention à plein de choses, mais que Marie fait la chose qui est nécessaire. Donc Jésus va dire, je m'excuse, n'ayez crainte, c'est juste un petit chat dans la gorge. Donc Jésus va dire à propos de Marie que Marie a identifié un besoin dans sa vie, et ce besoin est de porter son attention vers Dieu et vers les choses de Dieu. Sachons un fait qui est évident pour nous tous en tant que croyants. Nous avons été créés tributaires de Dieu. Nous avons été créés en besoin de Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous aspirons à être, tout ce que nous parvenons à être, ne l'est qu'à travers l'intervention de Dieu. Tu as une belle voix, disons, et tu chantes comme la Castafiore dans les livres de Tintin, tu chantes comme Pavarotti, tu as une voix exceptionnelle. Sache que cette voix-là n'est pas innée. Cette voix-là, d'un claquement des doigts de Dieu, cette voix-là disparaît. Toutes tes habiletés, toutes tes aptitudes que tu crois propres à ta propre personne, que tu crois naturelles chez toi, toutes celles-là peuvent s'estomper en un claquement de doigts si Dieu en décide ainsi. En tant qu'humain, nous avons été créés tributaires de Dieu. Le diable, depuis le départ, a voulu amener l'insoumission dans la vie de l'être humain et amener une autonomie ou une indépendance d'envers Dieu chez l'être humain. Lorsque nous sommes un croyant, lorsque nous venons à Christ, nous comprenons que nous avons besoin de lui. Nous ne cédons plus aux mensonges du diable qui voudrait nous laisser croire que nous pouvons performer sans Dieu. Nous comprenons que l'homme est incapable de vivre loin de Dieu, que l'homme est incapable de vivre sans Dieu. Chrétien, non chrétien, croyant, non croyant, sauvé, racheté ou non racheté, notre souffle de vie ne dépend pas de nous. Notre souffle de vie dépend de celui qui nous l'accorde. Daphné aime souvent répéter un verset qui dit « Mais qu'as-tu qui ne t'a pas été donné ?» Pour toutes ces personnes qui se pètent les bretelles, qui ont la tête qui s'enfle et qui croient être de grand quelqu'un, tout ce que tu as, tout ce que tu peux, tout ce que tu sais, tout ce que tu es capable, vient du fait que cela t'a été donné. La capacité t'a été donnée et du jour au lendemain, cette capacité peut être retirée. Donc nous, on comprend que notre relation avec Dieu est nécessaire, on la considère comme une nécessité primordiale dans notre vie, parce que nous savons que nous sommes tributaires de Dieu, que nous avons besoin de lui, que nous sommes en nécessité de lui. Deuxième synonyme pour kriya, nécessaire, c'est le terme devoir. C'est non seulement une nécessité, mais c'est aussi un devoir. Pourquoi est-ce un devoir de veiller à écouter Dieu? Pourquoi est-ce un devoir de veiller à porter notre attention vers Dieu? Mais tout simplement parce que nous avons été créés pour être serviteurs de Dieu. Nous avons été créés pour accomplir la volonté de Dieu. Et un serviteur ne peut accomplir la volonté de son maître s'il n'entend pas la voix de son maître qui lui dit quoi faire. Alors en tant que croyant, on comprend que c'est un devoir de porter notre attention vers Dieu parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu, donc nos désirs, nos accomplissements, notre travail est porté vers Dieu. Donc c'est un devoir de prêter attention à Dieu. Un serviteur, un bon serviteur, c'est quelqu'un qui porte attention à son maître. Prenons juste l'exemple d'un serveur dans un restaurant. Lorsqu'on considère que quelqu'un a bien fait son travail en tant que serveur, c'est qu'on a le sentiment que cette personne a veillé sur nous, a veillé à nos besoins, a veillé à ce que nous ayons un bon temps. Lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous veillons à accomplir, à susciter chez Dieu ce sentiment que nous ayons accompli sa volonté et accompli dignement et pleinement notre travail. Donc c'est un devoir en tant que serviteur. On ne peut pas être serviteur sans prêter attention à Dieu. Donc il est un devoir pour toi et pour moi en ce début d'année de porter mon attention, notre attention vers le Seigneur parce que nous sommes serviteurs de Dieu. De surcroît à cela, on parle aussi de créer comme affaire. Affaire dans le sens de occupation, dans le sens d'un business, dans le sens d'une charge professionnelle, d'une occupation. L'occupation première du croyant, c'est Dieu. L'occupation première de la vie du croyant, c'est Dieu. Si on a vu tout à l'heure qu'elle était distincte, qu'elle était première en chronologie, qu'elle était la plus importante de toutes nos préoccupations de cette terre, la plus importante de toutes les activités de cette terre, alors on comprend que c'est l'occupation numéro un de nos vies. Un peu l'image que j'aime très souvent ramener cette infirmière que un pasteur va voir à l'hôpital. Il ne savait pas que cette dame qui fréquente son église était infirmière. Il lui dit, mais je vous croise ce matin à l'hôpital et je ne savais pas que vous étiez infirmière. Et la dame lui répond, non, je suis une chrétienne déguisée en infirmière. Je suis d'abord chrétienne, puis infirmière. Dans notre vie, notre rôle de croyant doit primer sur toute autre occupation. Et enfin, après une nécessité, un devoir, une affaire ou une occupation, c'est aussi un travail. Créia a cette notion du terme travail. Pourquoi est-ce un travail? Mais parce que notre relation avec Dieu ne se fait pas toute seule. Notre relation avec Dieu, comme toute autre relation qu'on entretient ici-bas sur terre, demande du travail. Si notre relation avec Dieu était une plantation. Et on s'entend, la Bible nous dit que nous sommes une plantation à la gloire de Dieu. Alors, une plantation, ce qui diffère d'une plantation avec une terre en friche, c'est que la plantation est entretenue. Ma vie se doit d'être entretenue. Ma relation avec Dieu se doit d'être entretenue. Mon attention que je porte à Dieu se doit d'être entretenue. Pourquoi? Parce que si je ne porte pas attention, si je n'entretiens pas plutôt mon attention sur Dieu, mais ce qui va se passer, c'est que mon esprit va se mettre à vagabonder. Peut-être que même certains d'entre vous, ce matin, en m'écoutant, êtes déjà en train de penser au contrat que vous devez signer dans quelques heures, à la rencontre, à l'entrevue que vous allez avoir dans quelques minutes, peut-être au meeting que vous allez avoir dans quelques instants lorsqu'on aura raccroché. Peut-être qu'il y a un dossier qu'il vous faut compléter aujourd'hui, je suis en train de vous parler, et vous avez ce dossier qui revient. Donc, il y a un travail d'attention qui doit être faite, qui doit être fait plutôt. Il y a un travail, il y a un effort qui doit être fourni pour concentrer notre attention sur Dieu. Ça ne se fait pas tout seul. Et quand je prie, le pasteur André en parlait dimanche lors de sa prédication, on peut être distrait par bien des choses. On peut entrecouper notre prière par bien des choses, entrecouper notre intercession par le biberon qu'on doit préparer, par la soupe qu'on doit préparer, par le repas qu'on espère préparer pour ce soir, par le verre d'eau qu'on a mis sur le comptoir et qu'on a oublié de boire, par le cachet qu'on devait prendre il y a quelques minutes et on a oublié de le prendre, il se trouve encore sur la table. Il y a bien des choses qui peuvent venir couper notre attention. Lorsque je comprends que la parole de Dieu, lorsque je comprends que l'intimité avec Dieu est la chose primordiale dans la vie du croyant, alors à ce moment-là, je traite cette intimité avec Dieu, je traite cette relation avec Dieu, je traite cette attention que je porte à Dieu comme distincte de toutes les autres, comme première chronologiquement avant toutes les autres, comme plus importante que toutes les autres, je la traite aussi comme une nécessité vitale pour moi qui suis une créature de Dieu, ayant besoin de Dieu et ne pouvant vivre sans Dieu. Je le traite aussi comme un devoir, puisque je suis serviteur de Dieu, et ça me prend donc pour accomplir mon service d'entendre les prérequis, d'entendre les griefs, d'entendre les demandes, d'entendre les exigences de mon maître. C'est aussi une affaire, une occupation. Si je suis effectivement croyant, je comprends que l'occupation première de mon existence est Dieu. Je suis serviteur de Dieu, peu importe où je travaille, peu importe où je me déplace, peu importe avec qui je suis assis ou attablé, je suis d'abord serviteur de Dieu et cette relation prime sur toutes les autres relations. C'est une occupation première de mon existence. Et enfin, c'est un travail. C'est un travail, c'est une occupation qui va demander du temps de qualité, des efforts à fournir pour que cette relation puisse croître et avancer et se poursuivre et grossir, prendre de l'expansion et faire en sorte que je devienne de plus en plus intime avec mon Seigneur, mon Maître, mon Roi. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Prions et puis après ça, je vous donne deux petites informations importantes. Alors merci pour ta parole encore une fois ce matin, Seigneur. Merci pour cette occasion en ce début d'année où tu nous rappelles l'importance de porter notre attention vers toi. C'est l'occasion en début d'année de prendre des résolutions, de prendre des engagements. Certains disent on va aller au gym, d'autres disent on va couper telle ou telle boisson, telle ou telle sucrerie, on va essayer de manger un peu mieux. Certains disent on va essayer de lire davantage. La première résolution qui devrait être nôtre en ce début d'année, ça serait d'avoir une relation avec toi encore plus rapprochée, encore plus attentionnée à ton égard. Alors nous prions, Seigneur, que les propos qui ont été partagés ce matin trouvent des cœurs qui leur sont ouverts, qui les accueillent, qui les embrassent, et que ces propos, Seigneur, soient oints par ton onction, toute précieuse, oints par ton esprit, afin, Seigneur, que ceci puisse s'enraciner en nous, croître et porter du fruit, éclore et porter du fruit dans la vie de tout un chacun. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, deux petites choses importantes. Ce soir, étude biblique à 19h avec, je crois que c'est le frère Méreste cette semaine qui nous apporte l'enseignement. Donc, c'est bien entendu diffusé sur toutes nos plateformes Internet à partir de 19h ce soir. Deuxième petite annonce, il se pourrait que demain je sois en retard. Habituellement, le petit traitement que j'ai aux 4 ou 6 semaines est à 7h. Demain, on m'a donné rendez-vous pour 8h. Donc, il se pourrait que je n'ai pas le temps de rentrer à la maison pour faire la bénédiction matinale. Je vais me presser, je vais arriver là-bas un peu plus tôt, en espérant pouvoir... je prends une gorgée. En espérant pouvoir passer donc un peu plus tôt que 8 heures qui était prévu, mais ça se pourrait que je sois en retard ou que je ne sois pas là. Si je ne suis pas là, ne vous inquiétez pas, vous saurez pourquoi. On reprendra donc cet enseignement si je ne suis pas là le vendredi matin. Alors sur ce, je vous embrasse bien fort. Que Dieu vous bénisse et pensez combien il est nécessaire pour chacun d'entre nous de veiller à porter notre attention sur Dieu, une attention privilégiée et une attention profonde. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.